Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspar, bonjour à tous. On vous souhaite évidemment un excellent week-end de Pâques. Alors au programme de vos animaux cette semaine, on va faire le point sur les villes les plus accueillantes pour les animaux de compagnie. Pour la quatrième année consécutive, le magazine 30 millions d'amis a publié son palmarès. Et vous allez le voir, je ne vais pas tout de suite vous révéler les gagnants, mais les villes les plus accueillantes se trouvent dans le sud de la France. N'hésitez pas à témoigner, à nous dire comment ça se passe chez vous. 0826 300 300, habitez-vous dans une ville où les chiens notamment sont les bienvenus. On attend vos témoignages. Côté faune sauvage, on va s'intéresser ce matin au diable de Tasmanie, un petit animal dont vous connaissez certainement le nom, sans trop savoir à quoi il ressemble. L'espèce a bien failli disparaître et le zoo de Beauval participe à son sauvetage. On vous dira tout ça tout à l'heure. Enfin, focus ce matin sur une tout petite association qui sauve des animaux handicapés. Stéphanie, sa fondatrice, a besoin d'aide. On verra ce qu'on peut faire pour elle. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. Et on démarre tout de suite avec vous, Gaspard. Vous m'avez l'air en pleine forme ce matin.
Comme toujours.
Comme toujours, effectivement.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et on démarre avec une nouvelle étonnante qui nous vient de Bruxelles, qui voudrait interdire plusieurs races de chats. C'est quoi cette histoire, Gaspard ?
Bien, Natacha, sont concernés les chats hybrides et les folds qui, selon la secrétaire d'État au bien-être animal de la région, présentent des problèmes de comportement pour les premiers et de santé pour l'autre. Le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture l'avant-projet d'une loi visant à les interdire. Une fois entrés en vigueur, les propriétaires de ces chats devront obtenir une autorisation de l'administration pour les garder. Si les chats hybrides vont être interdits à cause de leur comportement non adapté à la vie en captivité, les chats folds sont eux visés en raison d'une mutation génétique qui crée des anomalies au niveau du cartilage des oreilles et sur le reste du squelette, provoquant des douleurs importantes et de l'arthrite chronique. L'élevage, la commercialisation et la détention de ces chats sera interdite. Toutefois, les personnes en possédant pourront les garder à condition qu'ils soient stérilisés.
On vous tiendra au courant quand même de la suite de cette évolution de la législation du côté de nos amis belges. On enchaîne avec une incroyable découverte au Kenya.
Des dents et des fragments d'os vieux de 23 millions d'années ont été découverts. Des membres appartenant à un Simba Kumbwa Kutokafrika.
Je ne sais pas si je prononce. Je ne sais pas non plus en fait.
Traduisé par un grand lion d'Afrique qui est l'un des plus grands mammifères à avoir existé sur Terre. Un morceau de mâchoire inférieure comportant une canine, une prémolaire et une molaire ainsi que d'autres dents et quelques os ont été découverts par des chercheurs. Selon les observations, c'était une belle bête de 1500 kilos environ, un gabarit lui permettant de s'attaquer à des éléphants et des hippopotames avec ses canines. Il pouvait cisailler la chair tandis que ses molaires lui permettaient de casser les os.
Et une autre incroyable découverte, cette fois-ci du côté de l'Argentine.
Plus précisément, dans l'Ouest, où des chercheurs ont trouvé un cimetière de dinosaures vieux de 220 millions d'années, avec des restes d'os représentant une dizaine d'animaux. Pour expliquer les causes d'une telle accumulation, les scientifiques émettent l'hypothèse d'une époque de grande sécheresse et à l'endroit même de la découverte, un petit coin d'eau, sûrement un petit lac où venaient en masse les herbivores pour boire. À mesure que l'eau se raréfiait, les animaux se seraient affaiblis aux abords du lac jusqu'à mourir, d'où cette magnifique découverte.
Merci beaucoup Gaspard. Allez tout de suite le palmarès des villes les plus accueillantes pour nos animaux de compagnie.
Sud Radio, vos animaux et vous.
C'est presque une tradition maintenant, voilà 4 ans que le magazine 30 millions d'amis a décidé de noter les villes, les grandes villes, pour savoir comment elles accueillent les animaux de compagnie, et notamment les chiens et leurs propriétaires. On est en ligne avec Katia Renard. Bonjour Katia.
Bonjour Natacha.
Katia, vous êtes la rédactrice en chef de 30 millions d'amis. Alors ce palmarès des villes, on ne va pas laisser planer le suspense plus longtemps. Quelles sont les 3 villes françaises les plus accueillantes pour les chiens ?
Alors, on a Montpellier en tête, qui a été en tête 3 années, hein, sur les 4 années. Une année, c'est presque accidentelle, on va dire. Ensuite, on a Toulouse, qui est pareil, qui figure toujours dans le trio de tête, et Toulon. Donc, Montpellier, Toulouse, Toulon.
Incroyable. Comment se fait-il que 3 villes du sud de la France soient en tête? Et alors, au nord, qu'est-ce qui se passe?
Alors, depuis que ce palmarès existe, effectivement, c'est toujours le sud qui est en tête. Donc probablement.
On aime plus les chiens dans le sud de la France ?
En tout cas, probablement qu'on est plus tolérant. Il y a aussi une forte population canine dans le sud, peut-être aussi parce qu'il y a une population plus âgée qui a, donc, qui a toujours un chien, enfin souvent un chien. Et aussi, il fait beau, donc on sort beaucoup avec son animal, on est beaucoup dehors. Et donc peut-être que les villes se sentent un petit peu plus obligées de faire une place aux chiens.
Juste pour information, pour les Parisiens qui nous écoutent, Paris est classé combientième dans votre classement ?
Alors, cette année, 24e, ce qui est quand même 11 places de mieux que l'an dernier et encore mieux que les toutes premières années où Paris figurait vraiment dans les toutes fins du classement, essentiellement parce qu'elle ne voulait pas participer. Donc maintenant, quand même, elle participe en répondant à notre questionnaire. Et il faut dire que depuis un an, la capitale a fait des efforts, même si c'est encore nettement insuffisant pour être, on va dire, dans une moyenne et évidemment en tête de classement.
Alors, on ne va pas jouer aux maîtresses d'école, mais on pourrait quand même dire pour Paris, en progrès, mais peut largement mieux faire.
Exactement, il y a une grande marge de manœuvre. Et surtout, il faut que ça vienne de la ville. Les progrès accomplis aujourd'hui à Paris sont beaucoup dus à l'initiative de propriétaires de chiens qui se rassemblent
dans l'association. Voilà.
Exactement, pour revendiquer une place à leurs chiens. Pour leurs chiens, ça vient rarement de Paris, on va dire de l'hôtel de ville directement. Ça vient aussi beaucoup des mairies d'arrondissement qui finissent par, on va dire, céder à la pression de ces associations.
Pour comprendre comment ce classement a été établi, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quels ont été les critères que vous avez regardés et notés ?
Alors, le premier critère qu'on regarde, c'est l'accessibilité. Est-ce que nos chiens peuvent avoir accès à une grande partie de l'espace public avec leur maître, ou est-ce que leurs maîtres doivent s'en séparer pour se déplacer d'un endroit à un autre? Ça va être les espaces verts, les squares, les jardins, mais aussi les transports. Si vous êtes propriétaire d'un chien et que vous voulez rejoindre un espace vert où est accessible, votre chien peut avoir accès, eh bien, si vous n'avez pas de voiture dans les grandes villes qui sont en train de vider, on va dire, leur hypercentre des voitures, ce qu'on peut comprendre, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de moyens de locomotion de se déplacer d'un endroit à un autre avec un chien s'il ne peut pas emmener ce chien dans les transports en commun. Donc ça, c'est un critère très important. Ça va être ensuite tout l'équipement autour de la propreté, c'est-à-dire les distributeurs de sacs, les sacs à crottes, ça va être les engins de nettoyage. Et puis ensuite, on va avoir tout un accompagnement dans l'invitation au geste propre, c'est-à-dire inviter à ramasser la crotte, mais également l'accompagnement dans l'éducation canine, pour permettre aux gens justement qui ont un chien de partager cet espace en respectant aussi les autres usagers qui n'ont pas de chien.
Et c'est aussi, important de le préciser, effectivement.
Exactement, ça ne peut pas se faire sans, on va dire, une concertation entre les possesseurs et les non-possesseurs. Il faut que ça se passe dans l'apaisement. On n'oppose pas, on ne rejette pas des populations qui ne partagent pas forcément le même
Alors,
point d'intérêt.
Katia, j'aimerais qu'on prenne en ligne Valérie Bartas-Orsal. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au maire de la ville de Montpellier et déléguée à l'animal pour la ville de Montpellier. Félicitations, vous êtes en tête du classement avec une note de 18 sur 20. C'est quoi le secret de Montpellier pour être une ville aussi accueillante des chiens ?
Oh, je crois que le pari, c'est d'aimer la vie, d'aimer les chiens, de respecter tout le monde, d'accueillir. Et puis avec Philippe Sorel, le maire, nous avons fait le pari de l'intégration totale du chien dans la ville parce que nous voulons être une ville accueillante. Pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur, vraiment.
Par exemple, dans la ville de Montpellier, les grands chiens sont admis dans les transports en commun. Ça, c'est une mesure qui n'existe pas partout. Est-ce que ça pose des problèmes concrètement ?
Comme disait Katia Renard, l'accessibilité est sûrement la première action à mettre en place dans une ville. Et puis à Montpellier, notre réseau est entièrement ouvert aux chiens, que ce soit dans le bus ou dans le tramway. Nous n'avons jamais eu de morsure. En fait, hein, j'ai fait mon enquête l'année dernière. Nous n'avons jamais eu de morsure dans le réseau. Lorsque vous vous déplacez en tramway à Montpellier, vous voyez les gens qui rentrent dans le tramway avec le chien tenu en laisse. Et puis même certaines personnes, si le chien est un peu imposant, vont lui demander de se coucher sous un siège. Ça se passe vraiment très bien. Nous vivons ensemble.
Et est-ce qu'il y a parfois des conflits avec d'autres usagers de la ville qui ne sont pas des propriétaires de chiens et des gens qui n'aiment pas les chiens parce que ça existe aussi ?
En fait, les conflits, il y en a toujours. C'est pour ça que nous travaillons énormément sur l'éducation. Nous travaillons également sur la propreté. Nous mettons en place un dispositif qui se veut global pour apaiser toutes ces tensions qui pourraient avoir lieu entre les possesseurs de chiens et les non-possesseurs de chiens.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment Montpellier compte rester encore en tête du classement l'année prochaine ? Vous avez d'autres projets ?
En fait, notre objectif n'est pas de rester en tête du classement. Être en tête du classement, c'est vraiment...
C'est juste la récompense et...
C'est une belle récompense. Voilà. Hier, j'ai appelé Madame Renard pour la remercier. Je lui ai dit qu'elle m'avait eu par surprise cette année. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Parce que le fait que le journal 30 millions d'amis ait mis en place ce palmarès, finalement, incite les autres villes à rentrer dans le jeu. Et puis, c'est un challenge pour toutes les villes. Nous échangeons entre nous, nous mutualisons.
Est-ce que vous
moyens.
Savez combien de chiens vous avez sur la ville de Montpellier ?
Non, mais Katia Renard pourrait donner un chiffre parce qu'ils estiment cela en pourcentage. Donc, je sais que nous sommes à peu près 280 000 habitants. C'est une histoire de pourcentage.
Katia, quelle est la proportion à peu près ?
Moyenne, on estime que en général il y a 10% de la population, 10% de la population c'est le nombre de chiens. Alors nous, pour avoir quelque chose de plus précis, on se réfère au fichier ICAD, puisqu'on estime aujourd'hui
qui est le fichier d'identification
des carnivores domestiques. Et donc les chiens, c'est quand même les carnivores domestiques, les animaux de compagnie les plus identifiés par rapport aux chats. Et donc on estime que 75-80% des chiens sont identifiés, particulièrement en ville. Mm-hmm. Donc en fait, on prend simplement le fichier ICAD. Et c'est vrai qu'on a une moyenne, dans le sud en général, c'est au-dessus de la moyenne nationale.
Très bien. Écoutez, on va marquer une petite pause. Merci à vous, Valérie Barta-Sorsal, et bravo pour le travail réalisé par la ville de Montpellier. Vous qui nous écoutez, si de votre côté vous souhaitez témoigner sur la manière dont votre ville accueille ou n'accueille pas d'ailleurs les chiens, n'hésitez pas à composer le 0826-300-300. Petite pause, on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Katia Renard pour parler de ce palmarès.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans Vos animaux, nous dressons le palmarès des villes les plus accueillantes pour les chiens. C'est le magazine 30 millions d'amis qui vient de publier pour la quatrième fois consécutive son palmarès, justement. Arrive en tête Montpellier, Toulouse et Toulon, Paris, 24e du classement. C'est pas terrible, il faut bien le dire. Et pour en parler, nous sommes avec Katia Renard, qui est rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. On part tout de suite au standard, puisqu'on a une auditrice qui souhaiterait réagir.
Et oui, Caroline a composé le 0826-300-300 et veut intervenir sur le sujet. Bonjour Caroline.
Bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Où habitez-vous Caroline ?
J'habite le 92, le Plessis-Robinson.
D'accord. Et alors ça se passe comment chez vous ?
Chez nous, il y a des espaces pour les chiens afin qu'ils fassent leurs besoins, oui. Simplement. Il n'y a pas vraiment d'air d'endroit bien dédié pour qu'ils puissent gambader. En plus, c'est une ville où il y a beaucoup d'HLM, donc tous les espaces verts, c'est les HLM. Normalement, vous êtes censé pas lâcher votre chien. Et les gens, même s'il y a des espaces pour que les animaux fassent par exemple leurs besoins, rien n'est respecté. Hein. Et puis, il y a quand même des sacs à crottes. Mais il y a très peu de gens qui ramassent leurs crottes, quoi. Je pense qu'il y a un gros travail.
Vous avez l'impression que c'est pas encore rentré dans les mentalités, ça, le ramassage des déjections ?
Non, c'est pas rentré dans les mentalités, et surtout pas à Paris. Maintenant, quand on voit Paris, c'est de plus en plus sale, les autoroutes c'est de plus en plus sale, les gens jettent tout. Et donc, s'ils jettent tout.
Sur les autoroutes, c'est pas les chiens, mais je comprends ce que vous voulez dire.
Ce que je veux dire, c'est déjà, comme c'est déjà sale partout, croyez-vous que les gens vont ramasser leurs crottes?
En fait, vous dites pas parce que finalement, puisque c'est déjà sale, on va pas faire d'efforts.
Non, ils font pas d'efforts. Les Français font pas d'efforts.
Vous êtes propriétaire d'un chien, Caroline?
Non, mais j'ai été propriétaire d'un chien quand j'étais plus jeune. Mes parents avaient un chien. C'était il y a 20 ans, hein. Donc là, c'était même pas dans l'idée de ramasser. Ça n'existait pas parce qu'il y avait pas encore cette conception de faire cohabiter les chiens avec les humains. Maintenant, on y vient de plus en plus. Mais je pense que c'est pas du tout encore rentré dans le mode de vie des gens. Ça devrait être une habitude. Je veux dire, dans les pays nordiques aussi. Je sais qu'ils le font et c'est fait, mais consciencieusement, parce que les gens ils savent que c'est un acte citoyen aussi.
Oui, c'est une question de mentalité. Katia Renard, c'est vrai que les crottes de chiens, c'est vraiment l'objet de toutes les crispations par rapport à la présence des chiens en ville.
souvent, le principal motif qui est évoqué par les villes hein, pour le fait de ne pas mener une politique d'intégration, c'est la crotte, hein, honnêtement. Donc, c'est vrai que chez nous, c'est culturel. C'est-à-dire, c'est une histoire d'éducation. C'est pour ça qu'on explique qu'il faut mettre en place tout un dispositif d'éducation des maîtres.
Donc, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Caroline?
Alors, moi, je suis moins sévère. Je pense que ça change. Effectivement, historiquement, on va dire qu'on a habitué les... Le chien est venu assez tardivement en ville. Hein. Il s'est intégré assez tardivement dans l'univers urbain. Et donc, au départ, si on se souvient, Paris, on avait mis les motocrottes. Et en fait, c'était à la ville de ramasser toutes les saletés par terre. Et donc, on dispensait un peu le propriétaire de ramasser les crottes. Et en fait, les villes se désengagent de ça parce qu'en fait, c'est pas du tout constructif. Les gens se dédouanent.
Et puis, ça paraît normal, finalement, quand on a un chien, d'avoir cet acte qui est un acte tout simplement de respect de l'autre et de respect de son environnement.
Et même de soi-même, quand vous avez votre chien dans votre jardin, j'imagine que les gens ne laissent pas les crottes dans leur jardin. Ils ramassent les crottes de leur chien dans leur jardin. Donc la rue, c'est exactement la même chose. Mais il faut aussi, c'est comme le mégot, c'est comme la canette. Oui. On doit ramasser les déchets. L'excrément de son chien, ça fait partie des déchets.
Bon, vous voyez, Caroline, Katia Renard, quand même, va aussi dans votre sens sur cette problématique des excréments et d'éducation, des gens, de des maîtres, hein. Avant tout. On est bien d'accord. Maîtres.
Oui, parce que les chiens, eux, hein, qui vont décider. Mais voilà, ça serait bien que ça change. Et malheureusement, on est toujours à la traîne.
Merci voilà. En tout cas, Caroline, d'avoir composé le 0-826-300-300. Si vous souhaitez réagir et nous dire comment ça se passe chez vous, n'hésitez pas à appeler le standard de Sud Radio. Katia Renard, je ne veux pas faire une émission spéciale crotte de chien, mais c'est vrai que ce problème est vraiment important pour l'intégration des animaux et des chiens en ville. Ça coûte cher aux municipalités?
Oui, c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire que, mais qui à terme est payant. Donc effectivement, il faut d'abord équiper avec des distributeurs de sacs à crottes et ensuite réapprovisionner ces distributeurs. Donc on va dire, nous, on a estimé que la moyenne de réapprovisionnement par an, c'est 20 000 euros. Donc ça reste
20 000 euros pour une ville
de 100 000 habitants, c'est la d'accord. moyenne. Hein. Après, il y en a qui mettent bien plus sûr. Que d'autres, mais effectivement,
ça reste raisonnable sur le budget d'une ville.
Oui, ça reste raisonnable. Et je prenais l'exemple de Paris, où Paris ne veut pas faire cet effort, mais en revanche investit 25 000 euros dans de la communication qui est fait en fait pour une sensibilisation. Donc on sent vraiment que c'est un parti pris politique plus qu'économique, puisque c'est quasiment plus cher que de faire distribuer des sacs à crottes. Donc
c'est
en fait,
vrai
après,
que
c'est vraiment une histoire de politique.
À Paris, vous avez les distributeurs de sacs à crottes qui sont encore bien présents, mais par contre, il n'y a pas de sac dedans, donc c'est un
oui,
peu problématique.
En fait, c'est parce qu'en fait, ce sont des vestiges, ce que j'explique dans l'article, d'une ancienne politique d'accompagnement. Donc, on n'a pas démonté les distributeurs, mais on les réapprovisionne pas. On estime que c'est comme à Marseille. La politique de Paris, c'est aux propriétaires de se fournir pour ramasser les crottes de chiens.
En ce qui concerne l'éducation des chiens, c'est aussi, j'imagine, particulièrement important pour leur bonne intégration dans une vie en société.
Oui, et alors, en fait, dans ces volets d'éducation, là où nous, on trouve que c'est important, c'est que ça permet d'abord au maître de transmettre un message au maître de ramasser. Ça, c'est une chose, parce qu'en fait, ils sont en groupe, c'est plusieurs maîtres ensemble.
Est-ce qu'il y a des villes qui organisent des cours d'éducation canine?
Bien sûr.
Qui structurent
ça. Montpellier,
ça.
Par exemple, fait ça plusieurs fois par semaine. Toulouse le fait aussi. Toutes les villes qui sont dans la tête du classement ont toute une politique d'éducation des chiens et de leurs maîtres. Et ça permet surtout de créer une communauté canine. Ça permet aux chiens de se sociabiliser. Et donc ça, c'est très important pour l'intégration du chien en ville. C'est-à-dire, s'il rencontre ses congénères, il va apprendre, il va se défouler et il va être tranquille quand il est dans l'espace public. Si vous permettez au chien de se défouler et de se socialiser, eh bien, il va être tranquille. Il va se reposer, il ne fait pas le fou toute la journée.
Bien sûr.
Donc ça, c'est très, très important.
Et on voit que, alors, certaines villes ont mis en place des aires de jeu où les chiens peuvent justement se défouler. Et puis, dans d'autres, c'est compliqué, à part le petit tour sur le trottoir dans le pâté de maison où vous habitez. Il n'y a pas grand-chose à faire avec son chien. Alors, voilà, il y a quand même une disparité assez forte en fonction des municipalités.
Oui, en fait, il y a des municipalités qui estiment qu'elles font ce qu'il faut quand le chien est autorisé à passer en laisse. Tout propriétaire de chien sait qu'à un moment donné, le chien, il a besoin de courir. Vous pouvez pas courir avec lui sans arrêt.
Et il a besoin d'échanger. Et donc, pour échanger, il doit être lâché. Sinon, il y a ce phénomène aussi d'agressivité en laisse. Donc, il faut qu'à un moment donné, il puisse s'ébattre. Si vous ne prévoyez pas ça dans la ville, à part celui qui peut aller à l'extérieur, ce qui est le cas de Paris, vous allez dans les bois de Boulogne, dans les bois de Vincennes, où votre chien peut se permettre de faire ça. Il n'y a aucun endroit dans la capitale qui est possible pour ça. Il y a quelques petits parcs aujourd'hui, mais très très peu.
Et je voulais qu'on parle aussi rapidement, Katia Renard, d'un rôle très important joué par les chiens. C'est le rôle d'accompagnateur des personnes âgées dans leur vie quotidienne, en quelques minutes, parce que malheureusement le temps nous est compté.
Oui, alors c'est justement, nous on veut aussi tracer des voies, des pistes pour demain. Et nous, on pense qu'un des enjeux de demain, c'est le maintien du lien entre la personne âgée ou fragilisée, hein, ça peut être une personne seule, et de son animal de compagnie. Souvent, quand vous rentrez dans un EHPAD, une structure de prise en charge d'une personne âgée, ça veut dire pour la personne âgée de se séparer de son animal. Et souvent, on le sait, hein, tous les médecins le disent, l'animal participe au bien-être et donc à la longévité de la personne âgée. Et donc pour nous, c'est vraiment un des chantiers de demain pour les villes, c'est de permettre à ces personnes de conserver le lien avec leur animal.
Et puis de le conserver, bon, bien sûr, en établissement de soins comme les EHPAD, mais aussi lorsque les personnes sont encore chez elles, pouvoir avoir un animal, c'est continuer à sortir à leur rythme. Voilà, c'est maintenir un lien social. Ça aussi, c'est très important.
Oui, et de permettre, il y a une expérience qui se fait à Cambrai, permettre à une personne âgée qui a perdu son chien et qui ne veut, parce qu'il était âgé, qui n'ose pas en reprendre un parce qu'elle a peur de disparaître avant lui, eh bien de permettre à cette personne âgée de savoir que son chien sera pris en charge. C'est ce qui se passe à Cambrai, où il y a un accord entre la mairie et le refuge de la ville pour permettre l'adoption d'animaux par des personnes âgées, donc chiens ou chats, et de la prise en charge de cet animal quand la personne est absente, en vacances, ou hospitalisée, ou qu'elle décède. La personne est rassurée, elle saura que son animal ne sera pas tout seul,
très
ni
bien.
Euthanasié.
Merci beaucoup, Katia Renard. Je rappelle que ce palmarès est à découvrir dans le dernier numéro du magazine 30 millions d'amis, avec une magnifique couverture. Voilà, merci à vous pour ce palmarès.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et vous le savez, dans Vos animaux, on ne s'intéresse pas uniquement aux animaux de compagnie. Il est aussi question de faune sauvage. Et tout de suite, on va vous raconter l'incroyable histoire des diables de Tasmanie.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Pour nous parler du diable de Tasmanie, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Rodolphe Delors, le directeur général du zooparc de Beauval. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Alors Rodolphe, avant de nous expliquer comment Beauval s'implique dans la sauvegarde de cette espèce qui a bien failli disparaître il y a peu de temps, pouvez-vous nous présenter ce petit diable de Tasmanie ? Son nom parle certainement à tout le monde. En revanche, on ne sait pas forcément à quoi il ressemble et d'où il vient précisément.
Oui, bien, Natacha, le diable de Tasmanie, c'est un animal extrêmement menacé, extrêmement en danger, qui vit à Tasmanie.
On a eu une petite coupure, Rodolphe. On vous a moyennement bien entendu. Donc, le diable de Tasmanie vit sur l'île de Tasmanie.
Les diables de Tasmanie vivent sur l'île de Tasmanie. Ce sont des animaux exceptionnels. Ce sont des marsupiaux. C'est le seul carnivore marsupial. Donc, marsupial, comme les kangourous, comme les koalas. Ils ont une poche marsupiale. Le bébé naît à 35 jours. Il s'introduit dans cette poche et il reste 6 mois. C'est un animal noir qui pèse 10 à 15 kilos. Noir avec un collier blanc, avec deux pattes arrière un petit peu plus courtes, voilà, et ce sont des animaux absolument craquants et qui ont bien failli disparaître.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé sur cette espèce il y a peu de temps, lorsque cette population de diables de Tasmanie a chuté brutalement ?
Eh bien, 80% de la population des diables de Tasmanie a été décimée ces 20 dernières années à cause d'un cancer de la face, le seul cancer contagieux qui se transmet en se mordant, qui est fait gonfler du visage et de la figure et qui empêche ensuite de manger et qui s'étouffe ainsi à cause de ce cancer. Donc, une partie de la population qui était indemne de ce cancer au nord de la Tasmanie a été capturée par les autorités australiennes, placée dans des des centres d'élevage et dans des parcs zoologiques pour pouvoir créer un programme d'élevage hors Tasmanie, pour pouvoir les élever et pour pouvoir les réintroduire une fois ce cancer éradiqué. Et là, on a une population saine qui est gérée dans le cadre d'un programme d'élevage. Donc nous avons eu l'honneur que le gouvernement australien ait accepté de nous confier cette espèce exceptionnelle cette année aux eaux de bovins. Donc c'est deux diables de Tasmanie qui viennent d'arriver et nous sommes seulement 5 parcs zoologiques européens et 10 parcs zoologiques dans le monde hors Australie à avoir l'honneur de participer à ce programme de conservation d'espèces.
Alors pour apprendre à s'occuper en fait de cette espèce, l'une de vos soigneuses qui s'appelle Delphine Pouvreau. Bonjour Delphine, vous êtes en ligne avec nous.
Oui, bonjour.
Delphine, vous êtes partie, je crois, aux eaux de Copenhague, d'où viennent les deux jeunes diables de Tasmanie que vous accueillez actuellement à Beauval. Expliquez-nous ce que vous avez fait et comment ça s'est passé là-bas.
Alors effectivement, on est parti à deux pour voir un petit peu les diables de Tasmanie, savoir comment s'en occuper et pouvoir les gérer. Donc là-bas, donc, nous avons fait la connaissance de nos deux diables de Tasmanie, qui sont deux mâles de 2 ans. Savoir comment s'en occuper, c'est-à-dire voir leur régime alimentaire qui est constitué essentiellement de viande,
oui.
De carcasses également, et savoir comment les gérer au quotidien aussi, savoir quand ils dorment, quand ils se réveillent.
Quelles sont les particularités de la vie de ce diable de Tasmanie?
Alors, déjà, dans un premier temps, ils aiment bien faire la grasse matinée. Donc, il faut savoir que les gens peuvent éventuellement les voir dans l'enclos qu'à partir, on va dire, de 10h30, 11h.
D'accord, ne sont pas des lève-tôt. Bon.
C'est ça, voilà. Ensuite, quand ils sortent, ils sont assez actifs. Hein, ils explorent beaucoup leur enclos, qui est constitué d'une rivière. Il y a 2 enclos, il y a une rivière. Il y a des niches où ils peuvent se mettre à l'abri et au chaud pour se coucher également. Et ensuite, ils passent beaucoup de temps à dormir dans la journée aussi. Donc, il y a surtout une activité le matin quand ils sortent, à partir de 11h jusqu'à 13h à peu près. Ensuite, ils font une bonne sieste et à nouveau, ils sont en activité. Alors, comme c'est un carnivore, on utilise une contention pour surveiller leur poids. Donc, leur poids, ça veut dire savoir s'ils sont en bonne santé.
Quand vous dites une contention, c'est-à-dire concrètement, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous devez les attraper pour vous les peser.
Voilà, c'est une contention, c'est-à-dire un moyen de les contenir pour pouvoir les peser sans leur faire de mal.
D'accord.
Donc, on les attrape d'une façon pour ne pas se faire mordre, parce que c'est quand même un carnivore avec une sacrée mâchoire.
Oui, voilà, ils ont des dents bien aiguisées.
Voilà, exactement.
Ils sont un peu bagarreurs, non, dans la nature?
Alors, dans la nature, effectivement, ils sont très bagarreurs, ils sont solitaires, et ils aiment, quand ils se retrouvent autour d'un repas, donc fait de carcasses, etc., ils ont tendance, justement, un petit peu à se disputer, c'est le plus fort qui va remporter, qui va repartir avec la carcasse ou le morceau de viande, et c'est pour ça aussi que la maladie, le cancer de la face s'est beaucoup développé, à cause de ça, justement.
Donc, les animaux qui ont été prélevés dans la nature par les autorités australiennes étaient des animaux qui, pour la très grande majorité d'entre eux, étaient sains, c'est-à-dire indemnes de cette maladie.
Exactement.
Et c'était Rodolphe, c'était le seul moyen de préserver ce diable de Tasmanie. Si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, il n'existerait plus.
Oui, tout à fait. D'où, encore une fois, l'intérêt des parcs zoologiques et des centres d'élevage pour sauvegarder des espèces. Mais il est aussi victime des accidents créés par les voitures, d'explosions démographiques, de la destruction des habitats. Donc il n'y a pas malheureusement que ce cancer qui est menace, comme malheureusement toutes les espèces sauvages actuellement. Nous allons faire face à la 6e plus grande espèce d'extinction de masse d'espèces animales et végétales. Donc les parcs zoologiques ont vraiment un intérêt, sont vraiment des maillons de la conservation aujourd'hui pour aider les pouvoirs publics à sauver, à élever ces...
Et c'est vrai que l'exemple des diables de Tasmanie est vraiment le parfait exemple de l'implication des parcs zoologiques dans la préservation des espèces. Alors là, c'est ce qu'on appelle une préservation ex situ, c'est-à-dire qu'il faut sortir ces animaux de leur milieu naturel pour pouvoir éviter une extinction de l'espèce, et puis peut-être un jour envisager une réintroduction, Rodolphe Delors ?
Voilà, tout à fait, c'est le but. Le but, c'est de pouvoir avoir une population captive hors Australie, saine, viable sur du long terme, qui est un petit peu la bouée de sauvetage pour cette espèce, qui nous permettra de les réintroduire dans des réserves une fois que ce cancer, une fois que sera éradiqué, une fois qu'il les milieux seront totalement sains et protégés. Je vais vous donner un exemple, on sort d'un peu du diable de Tasmanie, mais par exemple au mois de juin, nous avons la chance de ramener deux femelles gorilles nées à Beauvais, nées depuis des générations en parc zoologique, deux femelles gorilles qui vont être réintroduites dans une réserve du Gabon, une réserve où les gorilles ont malheureusement disparu. Cette réserve est extrêmement protégée aujourd'hui et deux femelles gorilles de chez nous vont être réintroduites avec d'autres des gorilles nées en Angleterre. Et ça, c'est vraiment le but des parcs zoologiques aujourd'hui, de pouvoir venir en secours de la vie sauvage.
On va partir au standard.
On part du côté de la Haute-Garonne, Natacha, où Stéphanie a composé le 0826-300-300. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie, ce sujet vous fait réagir?
Ben oui, tout à fait. Ben écoutez, je suis touchée par tout ça aussi. C'est vrai que s'il y a un vaccin qui peut éventuellement ralentir la maladie par rapport à ces diables de Tasmanie, puisqu'il y a quand même 70% de population disparue depuis 96.
Alors on va demander justement à Delphine Couvreau, qui est la soigneuse de ces diables de Tasmanie au parc de Beauval. Delphine, quel est en fait aujourd'hui l'état de la situation sanitaire de ces animaux? Est-ce qu'on a réussi à enrayer en fait cette maladie, ce cancer transmissible par morsure?
Alors actuellement, faudrait poser cette question vraiment aux vétérinaires. Nous, aux zoos de Beauval, on a des animaux complètement sains. Je pense que c'est pas encore...
Il y a un vaccin qui est aujourd'hui utilisé sur ces animaux.
Aujourd'hui, notre population de diables de Tasmanie en parc sont totalement sains, mais justement, on travaille avec des chercheurs pour pouvoir, et le gouvernement australien travaille avec des chercheurs pour pouvoir trouver des vaccins. Mais aujourd'hui, les premiers diables de Tasmanie ont réussi à rejeter cette maladie. Donc, nous avons à état des diables de Tasmanie à état naturel qui ont réussi à rejeter cette maladie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais les chercheurs travaillent toujours pour trouver des vaccins.
C'est effectivement un travail de longue haleine. Alors, Delphine, oui. Quelles sont les consignes qui vous sont données pour justement vous occuper au mieux de ces animaux? Parce que vous, à Beauval, vous vous occupez, je crois, des pandas, des koalas et maintenant des diables de Tasmanie, donc des espèces extrêmement différentes.
Oui, tout à fait différente et exceptionnelle aussi, unique en France. Les diables de Tasmanie, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'on réalise une pesée par semaine. Chaque jour, on vérifie leur état corporel.
Et vous devez rendre des comptes à quelqu'un?
Oui, on va
parce que
forcément,
programme d'élevage européen veut dire qu'il y a un contrôle de l'ensemble des animaux placés dans les parcs zoologiques.
Oui,
il y a
tout
un
à
contrôle.
Fait.
Oui.
Il y a un contrôle permanent. On rend des comptes, si on veut, si on l'appelle comme ça, aux zoos de Copenhague qui gèrent la population européenne et en lien avec le gouvernement australien. Et on rend donc des comptes et ces rapports vont chaque semaine au gouvernement australien. Ces animaux, nos deux animaux, nous ont été confiés par le gouvernement australien, signés par le ministre australien. Donc c'est vraiment un programme géré et suivi à 100% par le gouvernement australien, comme les pandas avec la Chine ou les koalas avec l'Australie également et les autres San Diego.
Très bien, et bien merci beaucoup d'abord à Stéphanie, notre auditrice, d'avoir composé le 0826-300-300. Et merci à vous Delphine et merci à Rodolphe Delors. C'est vrai que c'est un gros week-end pour vous là, ce week-end de Pâques, dites donc, avec ce beau temps. On entend du monde déjà derrière vous, c'est la grosse affluence.
Très, très gros.
Bon, Rodolphe, on vous a perdu. On vous souhaite un excellent week-end. Beaucoup de visiteurs sur le parc de Beauval et longue vie à ces diables de Tasmanie. Petite pause et on se retrouve juste après.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et donc c'est votre histoire, avant d'essayer de donner un petit coup de pouce à Stéphanie, qui est une jeune fille absolument formidable, qui a monté une association qui s'occupe d'animaux handicapés. On va revenir tout de suite sur la place des chiens en ville, en compagnie d'Olivia Augereau. Bonjour Olivia.
Bonjour Natacha.
Olivia, vous avez monté une application très utile pour les propriétaires de chiens, et cette application vient de prendre un nouvel essor avec la ville de Clichy, donc située en région parisienne, dans le 92. En quoi ça consiste? consiste précisément?
Alors, depuis 3 jours, à Clichy, vous pouvez, l'application géolocalise le propriétaire.
Et donc l'application, pardon, je crois que j'ai oublié de dire son nom.
SOS Pets & Co.
SOS Pets & Co.
Tout à fait. Vous permet, qui est gratuite pour les propriétaires, vous permet de trouver les distributeurs de sacs à déjection autour de vous,
oui.
Les canisettes, le caniparc qui va bientôt ouvrir.
D'accord.
Ça, c'est aussi une nouveauté à Clichy. Vous pouvez également
avoir... Donc, il va falloir que Clichy postule au palmarès de 30 millions d'amis l'année prochaine.
Mais tout à fait, ils font énormément d'efforts. Il y a également la possibilité d'avoir les coordonnées et de téléphoner à la police nationale, la police municipale et la fourrière si jamais on perd son animal de compagnie.
Oui.
Et également de pouvoir leur donner les anomalies qui peut y avoir dans la ville, c'est-à-dire un manque de sacs à déjection, une poubelle pleine, des
Donc
déjections
c'est vraiment
sur la chaussée, etc.
C'est une interactivité directe entre le propriétaire de chien et sa ville, sa municipalité, pour faire en sorte de faciliter la vie avec son chien en ville.
Tout à fait. L'idée étant de faire un maillage national et que le plus de villes possible puissent adhérer à cette idée afin que les propriétaires, lorsqu'ils se déplacent avec leur chien, puissent avoir tous ceux dont ils ont besoin pour justement pouvoir gérer leur animal avec le moins de problèmes possible.
Et donc Clichy est la première ville à utiliser, à avoir fait un partenariat avec votre application, donc une ville pionnière. Il y a d'autres villes qui sont intéressées par ce principe?
Alors, on est en discussion avec de nombreuses villes, notamment en région parisienne, Boulogne, Le Perreux-sur-Marne. Nogent-sur-Marne a refusé, mais ils ne sont pas très pet-friendly, Nogent-sur-Marne.
Ça, c'est dit.
Voilà. La ville de Lyon, on est également en discussion avec Montpellier, avec Nice et bien d'autres villes.
Votre application fait un tas d'autres choses aussi pour aider justement les propriétaires d'animaux. Expliquez-nous.
Alors, cette application, elle permet donc, comme je vous le disais, de géolocaliser le propriétaire et vous permet de trouver les vétérinaires ouverts autour de vous partout en France, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, les appeler, ça c'est vraiment recommandé avant de se déplacer, savoir s'ils sont disponibles, pouvoir s'y rendre, il n'y a pas de numéro surtaxé. Également de trouver les professionnels qui sont dans le bien-être et le respect de l'animal de compagnie, c'est-à-dire qu'ils ont signé notre charte.
Donc par exemple des taxis, des pensions.
Taxis, pensions, des promeneurs, des comportementalistes, des pet-sitters, etc. Et vous avez également un carnet de santé digital qui est extrêmement complet puisque vous pouvez enregistrer l'intégralité des informations concernant votre animal, notamment mettre des photos, des radios, des analyses, ce qui permet de ne pas les refaire en cas de pépin et de les partager via un mail.
C'est une super idée en fait cette application,
Mais
Olivia.
Ouais, et elle est gratuite pour
et
tout
elle est
monde.
Gratuite, il faut le préciser. Et ça s'appelle SOS Pets & Co.
Tout à fait, et elle est téléchargeable sur iOS et Android.
Eh bien écoutez, merci de nous avoir apporté cette précision. C'est important parce que ce sont des petits outils très pratiques qui sont gratuits à disposition des propriétaires d'animaux. Et ça change la vie. On s'en rend compte que quand on a un gros problème et qu'il faut tout de suite avoir sous la main la bonne information, donc grâce à ça, eh bien écoutez, on peut réagir en cas de souci. Merci Olivia pour cette présentation d'SOS Pets & Co. Allez, maintenant on va s'intéresser à l'association de Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Natacha.
Alors Stéphanie, moi je vous adore, on se connaît depuis quelques années parce que je sais à quel point vous travaillez d'arrache-pied pour sauver les animaux handicapés. Votre association, Stéphanie, s'appelle ?
Suzy Handicap Animal.
Suzy Handicap Animal, donc votre spécialité, entre guillemets, c'est vraiment ça. Hein. Vous recueillez toutes sortes d'animaux qui ont des handicaps parfois extrêmement lourds. Et aujourd'hui, vous avez quelques difficultés. Racontez-nous vos soucis.
Oui, voilà. Donc, on s'occupe uniquement des animaux handicapés. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les difficultés sont vraiment au niveau financier dans un premier temps pour pouvoir soigner les animaux au quotidien. C'est vrai que c'est un budget qui est quand même assez important tous les mois. Et on a aussi le fait d'avoir très peu d'adoptions parce que malheureusement, peu de personnes s'intéressent aux animaux qui ont un handicap, même si celui-ci est vraiment mineur. Ça va être peut-être, par exemple, un petit loulou qui va avoir juste un œil en moins. Ça va malheureusement reculer beaucoup de personnes alors qu'il peut très bien vivre avec un seul œil.
Alors Stéphanie, vous avez combien d'animaux en ce moment chez vous? Parce que finalement, votre association, c'est chez vous.
Voilà, c'est ça.
Vous travaillez avec les moyens du bord, mais vous faites un boulot formidable.
Ah bah, c'est très gentil, merci. Ah bah, à peu près, on en a 130 en moyenne.
Combien?
130.
130 animaux, c'est énorme. Vous avez quoi? Des chiens, des chats, mais aussi beaucoup d'autres animaux, je crois.
Voilà, c'est ça. Et donc, on a beaucoup de chats, beaucoup de chiens, mais on a aussi beaucoup de chevaux, beaucoup d'animaux de ferme, des moutons, des cochons, mais aussi des nacs. On va avoir des cochons d'Inde, des lapins, mais tous avec un handicap. C'est vraiment la particularité.
Alors, si les gens veulent vous aider, on a bien compris, d'abord, il faut venir adopter chez vous. On vous trouve où? On vous trouve comment?
Alors, on
parce
est
qu'on est là pour vous aider ce matin, Stéphanie. Donc,
c'est
soyons
gentil.
Concrets.
Alors pour nous aider, donc déjà ils peuvent, en fait les personnes peuvent nous contacter via internet sur le site suzyhandicapanimal.fr.
Alors vous parlez un petit peu vite, donc je me permets de répéter pour être
oui.
sûr que nos auditeurs aient bien compris, suzyhandicapanimal.fr, pardon.
Voilà, c'est ça. Ou aussi du coup sur les réseaux sociaux.
Oui.
On y est aussi. Et après, les gens peuvent en fait m'appeler directement en fait, sur mon numéro pour pouvoir prendre rendez-vous, pour venir rencontrer les loulous.
Allez, on donne votre numéro de téléphone. Mmh. Vous êtes prête?
Alors, c'est le 06
oui.
64 72 21 55.
06 64 72 21
55.
55, ça c'est le numéro de Stéphanie. Vous avez combien de chiens et combien de chats à l'adoption en ce moment?
Alors, en chien, on va en avoir un peu moins d'une dizaine parce que ça va être vraiment les loulous qui vont avoir des handicaps les plus légers qu'on va essayer de mettre à l'adoption.
Et parce au que niveau les autres, des... vous les gardez, en fait.
Voilà, ceux qui ont des soins trop lourds, en fait, on va les garder parce qu'au niveau soins, ça va être plusieurs fois par jour. Et en plus de ça, ça va avoir un coût vétérinaire quand même très important. Et c'est vrai qu'il y a quand même malheureusement des fois des compétences derrière qu'il faut avoir, c'est assez spécifique. Et pour les chats, on va avoir une trentaine à l'adoption.
Une trentaine de chats, une dizaine oui. de chiens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un de chaque, un qui est un peu votre coup de cœur, même si je sais que vous les aimez tous?
Ben oui, bien sûr. Donc, je voulais que je vous présente un petit loulou qui est l'adoption.
Voilà, pour que
d'accord.
ça donne envie à nos auditeurs de vous aider et de venir adopter chez vous.
Ah ben, c'est gentil. Donc, par exemple, pour les chiens, on va prendre l'exemple de Sacha, qui est un petit chien qui vient de l'île de la Réunion, qui était paralysé, qui au jour d'aujourd'hui marche, il arrive à marcher, il arrive à courir, il a une démarche, il a une marche un petit peu atypique, mais il se déplace, il est tout à
pourquoi
fait autonome.
Parce qu'il marche sur trois pattes hein.
Alors il marche sur ses quatre membres, mais comme il était paralysé, il a gardé un petit peu, vous savez au niveau de l'arrière-train, une démarche qui est un petit peu chancelante.
D'accord.
Mais par contre, à côté de ça, il est encore incontinent urinaire et fécal. C'est pour ça que malheureusement, depuis plusieurs années, personne ne s'intéresse à lui, alors que ça se gère quand même très bien, parce que du coup, on a un système de petites couches en bandeau qu'on vient changer plusieurs fois par jour, et c'est des soins qui sont assez légers.
D'accord.
Donc là, par exemple, voilà, c'était pour Sacha.
Alors ça, c'est Sacha. Et un chat?
Voilà. Et donc, en chat, donc, on peut prendre par exemple l'exemple de Chanel, qui est une petite chatte de 14 ans. Qui est FIV positive, donc c'est pareil, malheureusement, peu de gens s'intéressent aux chats qui sont le sida.
Donc, c'est le sida des chats, on rappelle que cette
voilà.
maladie est transmissible entre chats, donc il ne faut pas avoir un autre chat, il ne faut pas laisser sortir son chat qui est porteur de cette maladie. En revanche, ce n'est absolument pas transmissible aux êtres humains.
Exactement, c'est ça.
Et Chanel, elle est en pleine forme, mis à part cette déclaration de maladie, est-ce qu'elle démontre des symptômes ou pas du tout?
Alors non, nous on l'a pris en charge parce que c'est une amie ASV qui travaille en clinique vétérinaire qui m'a demandé de la prendre en charge parce qu'elle a des tumeurs aussi au niveau des poumons. Donc du coup, on sait que c'est une petite minette qui ne vivra pas malheureusement peut-être très très longtemps, mais voilà, qui peut vivre quelques temps encore très heureuse. Elle se porte aujourd'hui très bien. Depuis qu'elle est arrivée, elle a pris beaucoup de poids, elle est beaucoup mieux. Et du coup, on lui cherche un petit foyer pour la fin de vie, pour qu'elle puisse profiter de sa petite vie qui lui reste tranquillement avec beaucoup d'amour.
Voilà, donc si vous avez envie d'aider Stéphanie et d'aider Chanel en adoptant une petite chatte qui n'a pas encore beaucoup de temps à vivre mais qui aurait envie de vivre dans un foyer vraiment aimant et chaleureux, n'hésitez pas à contacter Stéphanie, Suzy Animal Handicap et puis il est aussi question de Sacha et de tous leurs copains. Alors Stéphanie, ça c'est pour les adoptions, on a bien compris que quand on vient adopter chez vous, ça vous permet de diminuer vos frais ou de prendre d'autres animaux en charge. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de vous aider, j'imagine. Financièrement, c'est important pour vous?
Oui, voilà, en fait. Donc, les personnes peuvent nous faire des dons en envoyant directement, par exemple, un chèque au refuge ou alors par Internet. Tout est noté, en fait, sur le site. Ils peuvent directement, en fait, faire un don par Internet ou même parrainer un animal, c'est-à-dire, en fait, donner une petite somme d'argent tous les mois pour un ou plusieurs animaux, en fait.
Et il faut bien préciser que vous avez aussi des animaux de ferme. Voilà, chez vous, c'est un peu l'arche de Noé. Ils sont tous éclopés. C'est assez incroyable. Moi qui vous connais maintenant depuis quelques années, je sais à quel point vous êtes extrêmement sérieuse, que vous faites un travail remarquable que peu d'associations font parce que c'est compliqué de prendre en charge tous ces animaux handicapés. Précisez-nous où vous êtes géographiquement, Stéphanie, parce qu'on ne l'a pas dit.
D'accord. Alors déjà, merci beaucoup pour ce que vous avez dit.
Ah, arrêtez de me remercier. L'important, c'est le travail que vous faites, vous.
Non, mais c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Et on est dans l'Orne, on est à côté d'Argentan, en fait, à 10 minutes d'Argentan, dans le 61, en Normandie.
Donc, allez découvrir Stéphanie, elle a un site internet, on rappelle le nom de votre association, je sais, hein, je rabâche un peu ce matin, mais c'est tellement important d'essayer de vous venir en aide, Suzy Animal Handicap, voilà, Stéphanie est une jeune femme passionnée, dévouée aux animaux, vous êtes toujours assistante vétérinaire Stéphanie ?
Oui, oui, bah, je suis toujours, maintenant, je travaille plus en clinique parce que je travaille 24 sur 24 ici au refuge.
D'accord.
Mais je continue à me perfectionner à côté pour pouvoir toujours améliorer.
Allez, merci à vous. Continuez ce travail formidable et merci à tous nos auditeurs de vos animaux. On vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.